Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour Gilles. Tu es notre invité aujourd'hui, Gilles Architecte, Gilles Cuisy.
Bonjour.
Alors, on va faire cette émission un peu comme je fais à chaque fois, en deux parties. On va revenir sur ton parcours dans un premier temps, et puis après, on parlera de ton lien avec l'art. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toi, ton parcours peut-être d'études dans un premier temps?
Alors, d'abord, mon parcours, il faut que je dise quelque chose tout de suite, parce qu'après, je vais oublier. C'est que mon parcours, il est doux. J'ai toujours travaillé avec Michel Maraval, mon associé.
Oui.
Donc, on a fait nos études ensemble.
Ah.
Et donc, on continue à travailler ensemble. Donc, c'est très, très long, oui, puisqu'on a commencé dans les années 70. Et donc, je dis « je », mais en fait, ça veut dire « nous ».
Nous, oui.
Donc, c'est important. Alors, oui, moi, nous avons fait l'école d'architecture à Montpellier.
Ouais.
Je suis entré à l'école d'architecture de Montpellier en 76.
Mm-hmm.
Donc, ça fait un bail. alors, l'école d'architecture à cette époque-là, elle avait une particularité. C'est qu'elle était très orientée, d'une part, sur les sciences humaines et sociales.
D'accord.
Et d'autre part, sur les disciplines artistiques.
OK.
Les architectes, je me souviens bien plus de mes enseignants plasticiens
oui.
que de mes enseignants architectes. Pas que voilà, mais parce que je dirais que dans le paysage des études à cette époque-là, à Montpellier, la dimension artistique, la dimension picturale en particulier, était extrêmement forte. Moi, mes profs, c'était Alain Clément, mm-hmm. c'était Tchir Dalkema, c'était Jean Azémar.
Ah.
Ça veut dire que c'est ceux qui, avec Vincent Biolès, avaient fondé très, très, juste à cette époque-là, Support Surface. Donc on a été, et si je rajoute des gens comme Jean Letcha, donc on a été très marqués par la question de la peinture.
D'accord.
Voilà.
Oh, classe, hein,
quand même. Oui.
Plutôt
oui,
classe.
Oui, très belle, très, très belle. Alors, c'était un petit peu compliqué par rapport à l'apprentissage de l'architecture.
Ouais.
Donc, ça nous a pris pas mal de temps parce qu'en parallèle, on était quand même obligés de travailler chez des patrons.
Oui, ouais, bien sûr.
C'était une époque où, en même temps qu'on faisait nos études, on travaillait. Mais ça a été des études absolument extraordinaires parce que justement, cette diversité des enseignements, cette ouverture d'esprit liée à l'enseignement des sciences humaines et sociales, et puis aussi ce contact avec ces peintres qui sont aujourd'hui quand même des figures absolument extraordinaires.
C'est génial quand même. J'étais loin de me douter que dans un parcours, dans des études d'architecture, il y avait cette ouverture-là vers l'art, quoi.
Bon, c'est plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours la discipline. Les disciplines artistiques sont ouais. très présentes au cœur des écoles, à l'école de Montpellier en particulier, avec beaucoup d'artistes plasticiens,
mm-hmm.
Comme Éric Vattier, je ne vais pas tous les dire, parce que je vais forcément oublier des gens, mais je pense à Marion de Villers. À l'époque, c'était vraiment de très grandes figures, quoi, et on avait vraiment le sentiment d'être face à de très grandes figures. Donc évidemment, ça nous a énormément marqués. Après... J'ai fait mes études à Montpellier, mais ma famille à l'époque habitait Nîmes.
D'accord.
Mes parents habitaient Nîmes, donc j'étais souvent à Nîmes.
Okay.
Et c'est aussi l'époque où, disons, en tout cas le début des années 80, où à Nîmes, il y avait Jean Bousquet,
mm-hmm.
Qui était maire de Nîmes et qui a fait venir énormément d'artistes.
Ouais.
C'est le moment où on a commencé vraiment à parler de Viala, de Claude Viala,
ouais, ouais.
Que j'ai pu rencontrer. Et puis, moi, j'ai rencontré à Nîmes, par exemple, des gens comme Julien Schnabel, dans l'environnement de ce qui se passait autour des arènes, des bodegas,
ouais,
cette ambiance très festive. Et l'ambiance nîmoise a aussi été extrêmement importante. Donc oui, moi, j'ai quand même baigné dans toute ma jeunesse, finalement, oui. Ma formation.
Oui, oui.
J'ai plus baigné dans les arts plastiques, oui, que dans l'architecture.
D'accord. Curieux, mais ça explique bien des choses pour la suite. donc tu fais tes études à Montpellier et je ne sais pas si tout de suite après tu ouvres ton cabinet, mais peut-être pas parce que tu étais peut-être jeune.
Eh bien si.
Ah ben, oh.
Si, c'est une époque où...
Il y avait plus de facilité pour entreprendre.
Alors, il y avait plus de facilité pour entreprendre et puis on avait... Je vais dire ça, alors j'ai quand même malgré tout beaucoup de respect pour tous ceux qui ont été mes enseignants. D'abord, il y en a beaucoup qui ne sont plus là aujourd'hui, mm-hmm, mais enfin, il y en a certainement encore. Mais c'était quand même une époque où on avait vis-à-vis de nos enseignants une sorte à la fois de respect, parce que c'était nos enseignants, mm-hmm, et que c'est important de respecter les enseignants.
Tout à fait.
Mais aussi, on n'était pas tout à fait d'accord avec eux, parce qu'on avait envie de faire une architecture qui s'opposait à celle qu'ils faisaient. Donc, on n'a pas vu du tout l'intérêt, avec Michel Maraval, mon associé, de faire trop longuement ce qu'on appelait la place, c'est-à-dire de trop longuement travailler chez les architectes montpelliérains. On l'a fait.
Okay.
On l'a fait quelques années. On l'a fait pendant nos études. Mm-hmm. On faisait 7-8 ans d'études. Hein, et puis, le jour où on a passé notre diplôme, on a posé notre plaque.
Oui, en fait, voilà. Très vite, vous aviez envie de développer vos propres projets,
oui,
à vous, quoi.
Très vite. Et
votre
c'était
vision,
une période où c'était possible. C'est-à-dire que très rapidement, enfin assez rapidement, on a été admis à participer à des concours d'architecture. Et puis, on a eu de la chance, certainement. On a peut-être aussi été... pas trop mauvais,
oui,
mais...
je pense que le talent,
voilà,
y est pour beaucoup,
on a,
hein, quand même.
On était un certain nombre, je pense, à avoir de bonnes qualités. Et puis, il y a eu ceux qui ont eu le plus de chance. Et nous, certainement. Et donc, on a rapidement gagné un premier concours, qui était la caserne des pompiers de la Paillade, à Montpellier. Donc, et puis, les choses se sont enchaînées. Ça nous a donné une visibilité. Et comme ça, on a fait une grande partie de notre carrière sur l'architecture publique, les bâtiments publics.
Et donc aujourd'hui, tu es toujours dans le même cabinet, Cuisy Maraval.
Toujours dans le cabinet Cuisy Maraval, qui quand même aujourd'hui réduit la voilure. Donc nous étions, il y a encore quelques années, une grosse dizaine. Aujourd'hui, on est plutôt quatre. Mais bon, c'est normal. Voilà, donc on travaille avec de jeunes architectes.
Et oui.
Donc, qui ont été... Pour certains, nos étudiants, moi, mm-hmm, j'ai enseigné ensuite, donc, c'est une histoire, c'est une longue histoire.
Oui, mais une belle histoire, hein, vraiment.
Et je pense, voilà.
Donc, tu disais que tu as enseigné, donc ça fait un petit moment déjà que tu enseignes à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. C'est là où tu as fait tes études ?
Alors, j'ai fait mes études à l'École de Montpellier,
ah,
absolument. Ensuite, j'ai passé un concours qui est un concours qui à l'époque était un concours, enfin, qui est toujours un concours national, donc pour devenir maître de conférence des écoles d'architecture. Mon premier poste a été à Saint-Étienne, donc je suis parti quelques années enseigner à Saint-Étienne. Et dès que j'ai pu, comme l'agence était à Montpellier, je suis revenu enseigner à Montpellier. Et donc depuis maintenant, je crois... 1997, je crois, j'enseigne à Montpellier.
Ok. Voilà. Et donc, d'après mes petites recherches, tu as été directeur de l'école. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui est directeur, mais tu sièges toujours au conseil d'administration,
oui,
puis tu le présides même.
Voilà.
Donc, tu nourris un lien, parce que du coup, depuis 1997, ça fait quand même un petit moment que tu enseignes à l'école. Et tous les architectes ne sont pas enseignants. Quelle a été cette volonté? Pourquoi, du coup, tu as souhaité enseigner ?
Alors, oui, j'ai été très brièvement directeur, un peu moins de 2 ans, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. C'est un autre métier qui est très difficile.
Tu enseignais quand même pendant que tu...
Non, j'avais accepté de diriger l'école.
D'accord.
Mais je n'enseignais plus. Aujourd'hui, c'est Thierry Verdier qui dirige. Je le salue d'ailleurs. Il fait un boulot qui est un boulot difficile. Moi, je préside le conseil d'administration. Ça demande beaucoup moins de temps et de travail. C'est simplement... essayer de réfléchir avec l'ensemble des administrateurs aux grands projets, disons, que l'école pourrait construire pour les années à venir. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, l'enseignement, pour moi, c'est fondamental. J'ai compris très rapidement. Alors peut-être justement parce que les figures que j'avais eues comme enseignant, que ce soit d'ailleurs dans le champ des arts plastiques ou aussi des sciences et techniques. À l'époque, mm-hmm. il y avait des enseignants aussi remarquables. Un ingénieur, par exemple, tout à fait remarquable, je me souviens très bien, qui nous avait donné le goût de la construction, Jean-François Rostand. Et donc ces figures-là m'ont peut-être...
T'ont marqué peut-être.
Voilà, amené ouais. à penser, enseigner. Et puis, il faut dire... Une chose, c'est que quand on est architecte et qu'on enseigne l'architecture, c'est une grande chance parce que on apprend aux étudiants, mais on apprend
oui,
des étudiants.
Oui, j'allais dire, il y a toute une transmission de toi vers les étudiants, mais il y a, je pense, aussi toute leur vision novatrice, enfin jeune, que toi, tu dois aussi...
Absolument. Alors, on appelle ça maintenant, dans les cercles pédagogiques, je crois, l'enseignement inversé.
Ouais.
Mais c'est tout à fait vrai, et moi, j'ai vécu ça tout au long de ma carrière. J'ai beaucoup appris, et j'ai des étudiants... qui, quand tu enseignes, te pousse à te remettre en question, te ouais. pousse à réfléchir, te pousse à dépasser ce que tu fais quotidiennement. Le métier d'architecte est un métier difficile, mm-hmm. un métier dans lequel on a beaucoup de responsabilités, est un métier qui peut nous enfermer un peu aussi dans des pratiques, je dirais, répétitives, parce que souvent les architectes, on fait appel à eux pour ce qu'ils savent faire, donc ouais. ce qu'ils ont déjà fait. Et l'enseignement, c'est un espace dans lequel on retrouve une ouverture, on retrouve le débat, on retrouve l'innovation. Et on retrouve aussi, et ça je pense que c'est très important par rapport aux questions qu'on débat aujourd'hui, on retrouve la transdisciplinarité, mm-hmm. c'est-à-dire on retrouve la relation à toutes les autres disciplines artistiques, que ce soit les sciences humaines, qui sont encore enseignées dans les écoles, bien sûr les arts plastiques, et puis des tas d'autres matières qui sont tout à fait passionnantes.
Ok, c'est hyper intéressant. Pareil, on parlait de d'art plastique, mais c'est vrai que les sciences humaines, ça c'est pareil en fait. On ne se doute pas comme ça d'un œil extérieur qu'il peut y avoir ce genre de d'enseignement dispensé dans une école d'archi.
Il y a des philosophes qui enseignent dans les écoles d'architecture,
ah ouais.
Il y a des sociologues, il y a des géographes, il y a des historiens. Oui, les sciences humaines et sociales sont tout à fait représentées et font partie c'est une part très importante de l'enseignement, okay. bien sûr. Je dirais que l'architecture, c'est avant tout une discipline qui est faite pour... est au service des gens, est au service des individus. Parfois, je dis, l'architecture, c'est fait pour donner du bonheur aux gens.
Mmh.
Et donc, je pense, sincèrement,
ouais,
avant
ouais.
tout, et du plaisir. Évidemment, les sciences humaines et sociales, elles sont au cœur de cette démarche.
Je vois. On aborde un petit peu la deuxième partie de cette émission et du coup le lien que tu entretiens avec l'art. D'abord, avant d'aller dans le vif du sujet, quel est toi ton propre lien avec l'art? Enfin, est-ce que tu es un féru d'art de manière générale? Enfin, qu'est-ce qui t'a ouvert à ça?
Bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ma vie des artistes. Certains. Dont j'ai parlé mm-hmm. par rapport à mes études. Et
oui.
puis après, j'en ai rencontré d'autres. Et peut-être une des plus grandes chances que j'ai eues, aujourd'hui, ça doit faire une vingtaine d'années, c'est de rencontrer et de côtoyer d'assez près quelqu'un comme James Turrell, par mm-hmm. exemple, immense artiste américain du Land Art, au moment où le ministère de la Culture lui avait confié la mise en lumière du pont du Gard. Moi,
ouais.
je travaillais sur le pont du Gard et donc le directeur d'architecture de l'époque, c'était François Barré, m'avait demandé d'assister James Turrell dans son travail, de l'assister techniquement, donc ce qui m'a valu d'aller chez lui à Flagstaff aux USA, de travailler avec lui, de le rencontrer à de multiples reprises.
Excellent.
Voilà, donc j'ai plusieurs moments de ma vie, j'ai comme ça rebondi, disons, sur des rencontres qui ont été extrêmement fertiles. Bon, je parlais tout à l'heure de Vincent Biolès, que je n'ai pas connu à l'époque où j'enseignais, parce qu'il n'était pas à l'école d'architecture,
ouais.
il était, je crois, aux Beaux-Arts à Nîmes, mais que j'ai croisé après à plusieurs reprises, même dernièrement. Je me rappelle quelques soirées à l'époque où notre bureau était sur le quai des Tanneurs,
mm-hmm.
où Vincent Biolès venait, est venu, on réunissait quelques copains architectes, et puis il nous parlait de son œuvre, il nous parlait de son travail, on essayait de discuter des relations que l'architecture entretenait avec
l'art.
Avec l'art. Donc voilà, je C'est aussi certainement le hasard. J'ai été à une époque très très ami avec un peintre donc, qui avait été aussi mon enseignant, Jean Letcha, qui est décédé l'année dernière, et donc voilà, duquel j'ai beaucoup appris, duquel j'ai beaucoup échangé.
Donc j'entretiens, enfin, il y a un lien étroit entre toi, enfin, ton intérêt personnel et le travail et la présence de l'art.
Oui, absolument. Alors, je dois dire aussi que je pense que, comme beaucoup de gens de ma génération, et là, on va peut-être rentrer dans le sujet du street art,
oui.
Je dirais, ouvert aux questions artistiques par l'enseignement de l'architecture.
Oui.
Moi, j'ai été absolument fasciné. Premier voyage à New York, dans les années 80, évidemment, la rencontre avec le travail de Jean-Michel Basquiat, de Kayserling, de ces gens-là.
Évidemment.
Et une très grande fascination pour New York, pour Manhattan, pour Brooklyn, pour toutes ces œuvres sur les murs.
Mm-hmm.
Et puis aussi pour peut-être des gens en France, comme, et pas loin de chez nous, comme Robert Combas, comme Rosa. Donc voilà, cet art qui était, alors je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin qui venait plus de l'espace populaire, en
oui.
tout cas, que des grandes académies,
oui, oui,
m'a aussi évidemment touché. Donc j'ai eu ce parcours-là, dans cette dimension-là, ce qui m'a peut-être amené après à chercher à côtoyer
d'autres artistes. Oui, bien sûr. Et tu te nourris dans ton travail hors enseignement, donc vraiment dans le travail d'architecte, tu te nourris de ces rencontres et de ces parcours différents du tien dans tous les jours dans ton travail.
Oui. Alors, par exemple, moi, j'explique ça à mes étudiants. Je pense que la littérature, je pense que le cinéma, je pense que voilà, le théâtre, la danse, sont des disciplines qui parlent quotidiennement à l'architecture. Mmh. Il faut, si l'on veut être un bon architecte, baigner dans cet espace-là. Et alors, il y a aussi un personnage dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui me vient à l'esprit là. Moi, quand j'avais 17 ans, dans ma poche, il y avait le Rimbaud bleu de poche 491. J'étais, comme beaucoup de jeunes de ma génération, fasciné par Arthur Rimbaud.
D'accord.
Après, j'ai été fasciné par Pasolini, par exemple. Alors, évidemment, Ernest Pignon-Ernest, donc et ses
oui.
collages, Rimbaud, Pasolini, crucifié, enfin, qui porte sa propre dépouille. Pour moi, c'est des images qui sont des images extraordinaires. Ça nourrit, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça nourrit ma pratique architecturale, mais ça nourrit mon quotidien et ça a certainement quelque part une relation avec mon travail.
Oui. Enfin, l'ouverture d'esprit, ne serait-ce que ça, parce que effectivement, l'art urbain aujourd'hui et pour les personnes, voilà, qui n'ont pas baigné dans cette culture-là, peuvent être un petit peu réticentes ou ne pas forcément comprendre. Mais ne serait-ce que voilà, de garder l'esprit ouvert, je pense que même si tu t'en inspires pas jour après jour dans ton travail, c'est une façon de rester connecté en fait
à son
environnement aussi, quoi.
Absolument. J'ai un fils qui a 36 ans aujourd'hui et je pense qu'il a pas mal parce que les jeunes, je pense, sont plus réceptifs à cette expression-là.
Je pense.
Et j'ai eu 4 enfants, donc 2 fils. Un qui a 36 ans, je pense qu'il a beaucoup voyagé au cœur de Verdanson.
Oui.
Voilà. Et lui-même, à certains moments, m'a fait me poser des questions.
Oui.
Voilà. Donc ces générations-là, elles ont été très intéressées par ces pratiques et par ces manières de prendre finalement possession de l'espace public.
Quand on est né et que c'est déjà là, c'est plus simple aussi. Quand on est né, je sais pas, dans les années 60 ou un petit peu avant, et que ces mouvements-là arrivent progressivement, on y voit peut-être quelque chose d'un peu brutal, d'un peu dérangeant. Donc faut savoir garder l'esprit ouvert. Alors avec Line Up, on a eu l'occasion de travailler avec toi sur un projet avec l'artiste Enaer qu'on recevra très bientôt dans Terrain Vague. C'était une fresque sur le bâtiment, sur l'immeuble Saint-Roch Social Club, donc le Jost Hotel, qui est après tout près de la gare Saint-Roch. Ce projet, on a travaillé ensemble. Alors avant même qu'ils sortent de terre, donc ça remonte à 2017, et l'œuvre, elle a été réalisée l'année dernière, à l'automne dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ?
Alors, c'est une histoire, ce sont des histoires qui sont des histoires longues.
Ah oui.
Peut-être justement parce que c'est des questions qui interpellent et que donc il faut les amener dans le champ de l'acceptation, en particulier politique.
Et hein, oui, forcément,
voilà,
ça prend
donc,
du temps.
Ça prend du temps, ah, il faut discuter, il faut que tout le monde arrive à être d'accord. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Ben, c'est aussi une rencontre. Donc, moi, c'est un projet sur lequel j'ai été sollicité par un promoteur qui tout de suite avait envie d'intégrer l'œuvre d'un street artiste.
D'accord.
Donc dans le bâtiment. On a commencé à parler de faire quelque chose sur l'entrée ou peut-être sur un mur du restaurant. Et puis moi, rapidement, j'ai dit non, il faut faire quelque chose de gigantesque.
Et là, on dit merci, Gilles.
Non, j'ai pas été le seul. Et le promoteur a été très rapidement convaincu. On était sur le... Il y a une grande partie du bâtiment qui donne sur la voie ferrée.
Et
donc
oui.
C'est un espace industriel. C'est à fait l'endroit dans lequel c'est absolument intéressant. Et donc, je ne sais pas quelle est la surface de la fresque qu'a fait Adrien.
Un peu plus de 1000 mètres carrés.
Un peu plus de 1000 mètres carrés. Et moi, je suis absolument... je suis fan de ce travail-là. Voilà. je trouve que c'est... Alors après, L'architecture, moi, je pense qu'elle a toujours entretenu un rapport très, très, très fort avec la peinture. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire le chiostro vert à Florence, s'il n'y a pas le travail de Paolo Uccello ou la chapelle Sixtine, voilà, la peinture de Michel-Ange, c'est pas pareil. Donc voilà, je pense qu'il y a... Et je trouve que ce travail a apporté un vrai intérêt au projet, à l'architecture du projet. Je suis très fier, très heureux. Et puis, c'est encore une histoire de rencontre. Voilà, Adrien, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai appris à le connaître. J'ai appris aussi une chose très intéressante à ce sujet. Pour revenir un peu sur l'histoire, dans un premier temps, c'est pas Adrien qui avait été, je crois, pressenti. Line-up dans les discussions, c'était plutôt Zest.
Oui, c'est tout à fait. C'était Franck Noto au début. Alors, bon, moi, j'étais pas encore chez Line-up, donc je me rappelle plus. Je l'ai su, l'info, mais je sais plus comment c'est passé de Franck Noto à Adrien, enfin à NAR.
Et alors, moi, j'ai un peu ça en tête. Moi, j'avais vraiment, en visitant l'atelier, trouvé le travail. J'aimais bien ce que faisait Zest, bien sûr, mais d'NAR intéressant. Et j'avais dit, tiens... Et dans un premier temps, donc, il avait été question qu'ils le fassent ensemble. Et puis Zest a dit, ah ben, écoute, finalement, non, c'est vachement bien. Il faut qu'un jeune le fasse. Et finalement, il a... Et j'ai trouvé ça superbe. Il a cédé sa place. Il a dit non, c'est bien. Moi, je suis très heureux que ce soit. Et j'ai trouvé, pour en revenir donc justement à cette histoire et à Line-up et à ces artistes-là, j'ai trouvé qu'il y avait dans leur relation quelque chose d'extrêmement confraternel, je ne sais pas comment appeler, amical, entraide.
Oui, oui.
C'est pas ça chez les architectes.
Ah bon ?
Pas trop.
On se tire un peu plus dans les pattes ?
Je crois.
Mince. Bon, après, c'est le cas. C'est le cas pour les artistes qui sont résidents des ateliers Ernest Michel. Il y a ce côté très fraternel où chacun se nourrit des expériences des autres, des avis, il y a pas du tout de concurrence entre eux. Ce qui est plutôt chouette, parce que même s'ils ont des univers très différents, ça pourrait se tirer un petit peu dans les pattes. Mais bien heureusement, on a un groupe de garçons qui travaillent très bien ensemble en bonne intelligence. Donc,
j'ai été impressionné par ça, voilà, cette manière de passer le
relais, flambeau un peu.
De se dire, on fait ensemble, tu fais tout seul. Enfin, voilà, c'est des...
Et du coup, voilà, donc cette fresque que vous pouvez voir hein, en vous baladant, en passant sur le pont, elle est visible, on ne peut pas passer inaperçue tellement elle est grande. Ça pourrait être une fresque en intérieur, parce que les artistes aujourd'hui, alors bon, on dit street artistes, mais ne font pas que du mur en extérieur, ils peuvent intervenir, comme ça aurait pu être le cas dans cette... Dans cette résidence-là, hein, il aurait pu très bien faire un hall d'entrée ou quelque chose comme ça. Du coup, toi, avec tout ce qu'on s'est dit, dans les projets que tu mènes, que tu crées, est-ce que tu t'efforces d'intégrer une œuvre ou est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est l'immeuble, enfin, ou le projet qui se prête à accueillir une œuvre ou comment ça se passe?
Je pense que c'est plutôt ça. Alors, j'ai fait là, on n'en a pas parlé, mais à quelques mètres du studio, d'ici, là, oui. sur le quai des Tanneurs, un bâtiment qu'on a réalisé pour nous-mêmes avec Michel Maraval, et sur lequel on a, dans un premier temps, installé une gigantesque photo d'une baigneuse, donc, parce que j'avais une amie, donc. Photographe, très grande photographe belge, Annie van Dendel, qui m'avait cédé les droits. Et ensuite, on a fait peindre par, je crois que c'était Réseau et Momise.
Oui.
Et d'ailleurs, l'œuvre est toujours en place.
Elle est toujours là, elle est toujours visible d'ailleurs.
Et voilà. Et l'idée, c'était que ce soit le support d'œuvres qui change, qui évolue. Bon, là, c'était le lieu qui s'y prêtait, ouais. le Verdanson, son histoire, y compris par rapport
Bien
à la
sûr.
Question du graffiti.
Bien
voilà.
sûr.
Et puis l'architecture. Il y a des architectures qui certainement s'y prêtent moins. Moi, en revanche, il y a quelque chose. J'ai finalement, peut-être sur ces dernières années, un peu changé de point de vue par rapport à l'architecture.
Okay.
Et j'ai découvert quelque chose. Alors, je pourrais en parler très longuement, mais je vais essayer d'être très bref. c'est qu'il y a quelque chose de fondamental, peut-être encore plus fondamental que l'architecture, c'est l'espace public.
Ouais.
C'est-à-dire, l'architecture, c'est une discipline nous amène à produire des édifices. Ces édifices, parfois, moi, je trouve que ce sont un peu trop des objets. Des objets insolites, des objets solitaires qui ne communiquent pas entre eux. Quand ils sont bien pensés, ils fabriquent quelque chose qui les dépasse pratiquement, qui est l'espace urbain, l'espace public. Et je trouve, alors, sans être nostalgique du tout, je trouve quand même que la modernité a abîmé un peu l'espace public. C'est-à-dire
ouais.
que la présence, l'omniprésence de la voiture fait que les rues sont devenues souvent, dans les quartiers contemporains, totalement dédiées à la voiture.
À la voiture.
Et donc, c'est une... Je trouve que l'art, quand il prend sa place dans cet espace contemporain, il a tout son sens parce qu'il nous ramène, il ramène notre regard sur ces espaces-là qui ont été, ces 30, 40 dernières années, un peu délaissés.
Un peu délaissés, oui.
Et je trouve, moi, je rêverais un jour de me promener dans Montpellier et de voir, pour en revenir à Ernest Pignon, Pasolini, portant ça, affiché sur un mur. Et tout d'un coup, je pense que, notre regard changerait, un autre récit. Vous voyez,
oui,
l'art
oui.
apporte un nouveau récit dans la rue. Je trouve ça extrêmement important parce que moi, je milite pour que on repense notre espace urbain quotidien, c'est-à-dire
oui,
qu'on se remette à penser la rue comme le lieu dans lequel nous vivons au quotidien. Nous nous rencontrons, nous échangeons, nous discutons, nos enfants peuvent jouer, et non pas comme des tubes dans lesquels circulent les voitures.
Juste on passe et puis voilà.
Ce qui a quand même été un peu le cas de ce que l'architecture a produit et ce que l'urbanisme a produit
années.
Ces 30 ou 40 dernières années.
Oui, parce que finalement, c'est des espaces d'expression et il suffit, quand on se balade dans le centre, il suffit des fois on flâne et on lève les yeux et on aperçoit une œuvre ou quelque chose d'atypique. Et ça nous fait avoir un regard différent sur une rue qu'on emprunte quotidiennement pendant des années.
Absolument. Je me rappelle d'avoir... entendu un jour Christo qui parlait du travail qu'il avait fait soit sur le Reichstag à Berlin, soit sur Paris, et qui disait moi, quand je j'emballe un monument, quand j'emballe un édifice, les gens qui voient ce travail ne verront plus jamais, même une fois que l'emballage aura disparu, l'espace de la même manière. Ça nous permet, l'art nous permet de reprendre une forme de vigilance et une forme d'attention sur des espaces qui nous sont quotidiens et que finalement on ne regarde plus, et de retrouver à la fois un plaisir et un intérêt pour l'espace de la ville. Quoi.
Et c'est sur cette jolie dernière phrase qu'on va finir. Merci beaucoup Gilles d'avoir été mon invité sur cet épisode. Merci Alice en régie et merci à tous de nous écouter et à bientôt pour un nouvel épisode de Divergence.
Et merci à toi.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir... les graffeurs comme des délinquants, on s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leurs plans que tels des braqueurs de banque en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.